VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, il est 7h en temps universel. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019. Au micro, Nanit Talani
et Michel Joseph.
Les principaux titres de ce journal.
En Guinée, manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Condé.
Au Gabon, polémique autour de la récente nomination du fils du président Bongo à la présidence.
Au Niger, nouvelle attaque contre l'armée alors que les États-Unis offrent des équipements militaires pour combattre le terrorisme.
La France dévoile la réforme des retraites après 6 jours de grève.
En Afghanistan, une attaque contre un hôpital fait au moins 5 blessés.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Les Guinéens ont à nouveau manifesté hier à Conakry et en province contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Le point avec Irénée Herman Mbo.
Un responsable de l'opposition a chiffré à 1 million le nombre de personnes ayant marché à Conakry. Il y a eu aussi des mobilisations de milliers de personnes dans plusieurs autres villes, à Mamou, à Dalaba et à Labé. Aucun incident n'a été rapporté, mais les manifs ont été brutalement réprimés à plusieurs reprises. Au moins 20 civils et un gendarme ont été tués. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Nos pensées vont vers nos morts, a déclaré à Conakry Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC, lui-même sorti récemment de prison en attendant une décision en appel après avoir été condamné à la prison ferme en première instance. Le Front National de Défense de la Constitution organise depuis le 14 octobre des manifestations contre l'ambition prêtée à Alpha Condé de modifier la loi fondamentale pour briguer un troisième mandat l'an prochain. Monsieur Condé, 81 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. Il entretient le flou sur ses intentions mais a lancé en septembre des consultations sur une éventuelle révision de la Constitution.
Des hommes armés ont attaqué mardi une position de l'armée nigérienne dans la zone d'Inat, dans l'ouest, près de la frontière du Mali. Selon une source sécuritaire, les assaillants venus par dizaines et par petits groupes à moto ont attaqué le camp qu'ils ont encerclé dans la soirée. L'attaque a été repoussée et la situation est actuellement sous contrôle. Des renforts ont été envoyés sur place. Aucun bilan n'a été fourni. L'attaque de ce mardi est la deuxième en 2 jours contre des positions de l'armée nigérienne. Lundi, 3 militaires nigériens et 4 terroristes ont été tués dans une attaque contre un camp de l'armée dans la région de Tawa, voisine de Tiaberi et proche du Mali, a indiqué le ministère nigérien de la Défense.
Les États-Unis vont donner au Niger des équipements militaires et 60 véhicules blindés d'un coût total de 21 millions de dollars. Pour aider à la lutte contre les groupes djihadistes. Le point avec Idriss Fall.
13 véhicules blindés Mamba, 86 systèmes radio et 4 containers blindés ont déjà été remis la semaine dernière au ministère nigérien de la Défense, selon Eric Whitaker, ambassadeur américain à Niamey. Les 47 autres véhicules blindés tactiques et des équipements de protection individuelle vont bientôt suivre. Ces équipements sont destinés aux militaires nigériens engagés dans les opérations de la force du G5 Sahel, précise l'ambassade américaine. Les États-Unis vont par ailleurs fournir un avion de transport militaire Hercule C-130 en février 2020. Washington a déjà fourni plus de 14 millions de dollars en formation de pilotes, d'équipage, de mécaniciens et en pièces détachées. Washington avait déjà offert en 2015 au Niger 2 avions de type Cessna C-208 pour surveiller son vaste territoire ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes. Les États-Unis ont également une base de drones à Agadez dans le Nord. Le 4 octobre 2018, 4 soldats américains et 5 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade près de Tongo Tongo, un village proche du Mali.
5 personnes ont été tuées, 3 civils et 2 membres des forces de sécurité dans l'attaque perpétrée mardi soir par un commando des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio, a indiqué ce mercredi la police somalienne. Selon plusieurs témoins interrogés, les assaillants étaient vêtus d'uniformes de police, ce qui leur a permis d'approcher de l'hôtel sans éveiller les soupçons. Ils ont alors ouvert le feu et fait usage de grenades, déclenchant la riposte armée des forces de sécurité affectées au barrage routier, mais non à la présidence somalienne. Après plusieurs heures de siège, la police somalienne est parvenue à neutraliser les deux derniers membres des Shebab retranchés à l'intérieur de l'hôtel Sil. La chef adjointe de la police somalienne, Zaka Hussein, a indiqué sur son compte Twitter que les forces de sécurité avaient secouru 82 personnes, incluant des civils et des officiels. Aucune information officielle n'a filtré sur d'éventuelles victimes de l'attaque.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aung San Suu Kyi, conseillère d'État du Myanmar et lauréate du prix Nobel de la paix, prendra la parole devant la Cour internationale de justice ce mercredi pour défendre son pays mis en cause par la Gambie pour les massacres et persécutions contre la minorité musulmane, les Rohingyas. L'ancienne icône de la paix est à la tête d'une délégation birmane qui devrait soutenir que le tribunal n'est pas compétent et qu'aucun génocide n'a eu lieu au Myanmar. La Gambie estime que le Myanmar a violé la convention de 1948 sur le génocide et qu'il incombe à chaque pays d'empêcher un génocide. Plus de 730 000 Rohingyas ont fui le Myanmar après que l'armée a lancé une répression dans l'ouest du pays en 2017. Le Myanmar soutient que ces opérations militaires étaient une réponse justifiable aux actes de terrorisme et que ses soldats avaient agi de manière appropriée.
En France, plusieurs centaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté hier contre une réforme des retraites à travers le pays, où la grève se poursuit notamment dans les transports. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le gouvernement, ils étaient près de 340 000 à manifester, alors que le syndicat CGT parle de près de 900 000. Des chiffres qui sont difficilement vérifiables. Les cortèges étaient moins fournis que lors de la première journée de mobilisation le 5 décembre. Le mécontentement reste haut, a fait valoir le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. On est aujourd'hui contre ce projet de réforme des retraites. On le trouve injuste, inqualifiable. C'est un danger pour le modèle social français, a déclaré Edgar, un employé de la régie des transports parisiens. Les manifestants veulent amener le gouvernement à renoncer à mettre en place un système universel de retraite par points censé remplacer les 42 régimes existants. Le Premier ministre Édouard Philippe prononce son discours ce mercredi, mais on ne s'attend pas à ce que le gouvernement fasse marche arrière sur cette réforme, qui est une promesse de campagne du président Emmanuel Macron.
Après deux années de concertation et six jours de grève et manifestation en France, le Premier ministre dévoile ce mercredi sa réforme des retraites et les compromis, voire les concessions que l'exécutif est prêt à accorder pour tenter de calmer la colère. Édouard Philippe a promis de présenter à la mi-journée l'architecture de la réforme visant à fondre les 42 régimes de retraite actuels. Général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires, en un seul système universel par points.
Les démocrates ont retenu hier deux chefs d'accusation dans la procédure contre le président Donald Trump, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La Chambre doit maintenant voter en plénière la mise en accusation et refiler le dossier au Sénat. Deux points avec John Lindon.
Devant les drapeaux américains, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a évoqué hier un jour solennel lors d'une allocution pour annoncer ses deux chefs d'accusation, à savoir abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Des accusations ridicules, a réagi le président américain, dénonçant une nouvelle fois une chasse aux sorcières. Le président s'attend à être totalement exonéré car il n'a rien fait de mal, a déclaré Stéphanie Gresham, la porte-parole de la Maison-Blanche. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, adoptera sans doute ses chefs d'accusation avant Noël. Ainsi, le président Trump sera, selon toutes les probabilités, le troisième président américain mis en accusation au Congrès après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998.
Un attentat contre un hôpital en construction près de la base américaine de Bagram, au nord du Kaboul, a fait au moins 5 blessés afghans mercredi, ont indiqué des sources locales et militaires américaines. Le gouverneur du district de Bagram, Abdul Shukur Nkosi, a de son côté fait état de plus de 50 civils blessés lors de l'explosion puissante qui a endommagé beaucoup de maisons. L'attentat n'a pas fait de victimes parmi les forces de la coalition, a indiqué la mission de l'OTAN à Kaboul. Resolute Support, l'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, est intervenue alors que les talibans et les États-Unis ont repris leurs négociations à Doha.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, présentée par Irénée Herman Umbo.
Selon l'agence Ecofin, les États membres de l'UEMOA ont levé un montant total de 1137 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics au cours du troisième trimestre 2019. Le montant levé par adjudication s'établit à 813 milliards de francs CFA contre 324 milliards de francs CFA par syndication qui ont été levés par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Au Niger, plus de 2 millions de personnes pourraient être affectées par l'insécurité alimentaire sévère en 2020. L'alerte a été donnée par le premier ministre du pays, Brigri Raffini, sur la base de la synthèse des résultats de l'évaluation de la sécurité alimentaire. Au Ghana, le vice-président de la République, Muhammadu Bouamia, a affirmé que le gouvernement poursuivra ses actions de numérisation pour venir à bout de la corruption. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de la semaine annuelle de lutte contre la corruption et pour la transparence. En Afrique du Sud, la crise de l'électricité s'est encore aggravée après la décision de la Compagnie nationale d'intensifier les rationnements de courant imposés depuis plusieurs jours à ses usagers à cause des intempéries.
Maintenant, place au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanik, bonjour à tous.
On connaît les qualifiés pour la phase de poule du Rugby Africa Cup 2020.
Oui, les éliminatoires ont livré les qualifiés pour la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby dans sa nouvelle formule. Avec 9 essais, le Sénégal a explosé Maurice 63-0. Madagascar a été plus fort que le Nigeria, battu 63-3. Bakary Meïté a porté la Côte d'Ivoire qui a pris le dessus sur le Rwanda 60-3. Enfin, le Ghana a été accroché par le Botswana mais s'en sort 36-25. Place désormais à la phase de groupe qui débute en juin 2020. Avec les 12 meilleures équipes africaines, Madagascar sera logé dans le groupe A aux côtés de la Namibie et la Zambie. La Côte d'Ivoire défiera le Maroc et le Kenya dans le groupe B, puis le Sénégal retrouvera l'Algérie et l'Ouganda dans le groupe C. Et enfin, dans le groupe D, on retrouve le Ghana, le Zimbabwe et la Tunisie.
Ligue des champions ce soir.
Pas de suspense dans le groupe B. Le Bayern Munich premier et Tottenham deuxième ont déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale. L'Atlético Madrid sera qualifié si elle bat le Lokomotiv ou si Leverkusen ne bat pas la Juventus Turin. Derrière Manchester City, tout reste encore possible au sein du groupe C pour le Shakhtar, le Dynamo Zagreb et l'Atalanta Bergame. Assuré de finir premier du groupe A, le PSG n'a plus qu'un seul objectif à remplir. Terminé son premier tour européen, invaincu avec 5 victoires en 6 journées au Parc des Princes, la réception de Galatasaray déjà éliminée sera sous haute surveillance en tribune en raison des affrontements entre supporters des deux camps. Le 13 mars 2001, le Real Madrid entend confirmer sur la pelouse de Bruges.
Yakuba, hier, les Africains de Liverpool ont brillé.
Oui, le tenant du titre, bousculé pendant 45 minutes, a finalement fait respecter son statut à Salzbourg, 2-0, décrochant la qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe E. Le Guinéen Naby Keïta et l'Égyptien Mohamed Salah sont les buteurs avec un seul et même passeur décisif, le Sénégalais Sadio Mané. L'autre Sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, jouera aussi les huitièmes de finale. À domicile, les Italiens ont assuré l'essentiel grâce à un triplé de l'attaquant polonais, Arkadiusz Milik, avant de renforcer le clou par le Belge Dries Mertens sur penalty.
Pour terminer, Megan Rapinoe, élue sportive de l'année.
Oui, après avoir décroché le Ballon d'Or et le prix FIFA des Best, l'attaquante américaine a été désignée personnalité sportive de l'année par le magazine Sport Illustrated. Megan Rapinoe a remporté le mondial féminin, finissant meilleure joueuse et meilleure buteuse de la compétition. Elle est la quatrième femme dans l'histoire à remporter ce prix. Sa forte personnalité a fait d'elle la figure emblématique de la sélection américaine. Sa pose après chaque but est devenue l'une des images fortes de la compétition et elle est désormais connue pour ses prises de position sans langue de bois.
Résultat de la NBA, Charlotte a terrassé Washington 114-107, Miami a abattu Atlanta 135-121, Philadelphie a froissé Denver 97-92 et enfin Portland a défait New York 115-87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours avec vous de Washington, Nanit Talani, nous passons à notre page magazine. Destination le Mali, le chef de bureau de la MINUSMA à Kidal est déclaré persona non grata par le gouvernement malien. Christophe Sivillon a 24 heures pour quitter le pays. Il avait dit pendant le 4e congrès du MINLA à Kidal qu'il souhaitait la bienvenue aux délégations maliennes et étrangères. Le gouvernement malien n'a pas du tout apprécié de tels propos, les Maliens non plus. Les réactions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Lors du congrès du Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, en début décembre, Christophe Sivillon, chef de bureau de l'AMINUSMA de nationalité française, avait introduit son intervention en saluant les responsables présents et les délégations venues du Mali et de l'étranger. Cette phrase n'a pas été du tout bien appréciée à Bamako. Teblin Dramé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Vous informez que le président de la République et le gouvernement ont décidé de déclarer persona non grata le chef du bureau régional de l'AMINUSMA à Kidal pour le propos qu'il a tenu la semaine dernière. Le responsable de l'AMINUSMA dispose de 24 heures pour quitter le territoire de la République du Mali. Le gouvernement du Mali reste engagé avec les Nations Unies et toute la communauté internationale dans l'œuvre importante de rétablissement de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale du Mali.
Les autorités et la classe politique malienne avaient condamné les propos du représentant de la MINUSMA, Gaussou Koulibaly, enseignant.
Je crois que le monsieur, c'est qu'il a, en tant que représentant de la communauté internationale, bon, les propos qu'il a eu à avancer, bon, il a jeté de l'huile sur le feu. Bon, surtout, il a confirmé encore le soupçon qu'on portait sur la communauté internationale vis-à-vis des indépendantistes. Donc, son expulsion vient à point nommé.
Dans les rues de Bamako, certains trouvent que ces propos laissent penser que la ville de Kidal ne relève plus de la souveraineté malienne. Boubacar Diallo, comptable.
Le Mali est indivisible. On l'a toujours dit. Kidal fait partie du Mali. Tu ne peux pas à Kidal souhaiter la bienvenue aux autorités maliennes à Kidal comme si Kidal ne faisait pas partie du Mali. C'est pas normal du tout. Et en tant que représentant de l'ONU, de la MINUSMA au Mali, il n'avait pas tenu ses propos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un guise sous roche, quoi.
Traoré Sitan Sissé, gérante de Gargote.
Le Mali, c'est pas à diviser. Le Mali, c'est fait qu'un seulement. Kidal fait partie du Mali, non? Donc, c'est pas encore divisé. Le Mali ne peut pas être divisé même. Donc, il faut que lui, il parte.
Pour les patrons de l'AMINUSMA au Mali, l'affaire de Christophe Sivillon est derrière eux. Mamad Salé Anadif.
Et moi, le lundi dernier, j'étais ici au ministère des Affaires étrangères. Nous avons discuté suffisamment avec le ministère. Pour toutes ces choses que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette affaire est déjà derrière nous. Et nous travaillons pour la paix.
Il faut signaler que Kidal fait partie de ces vastes zones du Mali qui échappent à l'autorité de l'État malien. Cela malgré la présence des bases françaises et des forces onusienne. La ville est toujours sous contrôle des ex-rebelles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Destination le Gabon, polémique autour de la récente nomination de Noureddine Valentin Bongo au poste de coordonnateur général des affaires présidentielles. L'opposition assimile cette mesure à une monarchisation du pouvoir. Côté pouvoir, on dit que cette promotion du fils de l'actuel président gabonais est conforme à un décret institué sous feu Omar Bongo Ondimba en 2003. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangzi.
L'Union nationale dénonce un décret en totale violation de la Constitution, une situation d'exception inédite et inacceptable, qui traduit manifestement la volonté du chef d'État gabonais de passer la main à son fils Noureddine. La déclaration de Zakari Mimbotto, numéro 1 de l'Union nationale, un parti d'opposition, intervient après celle du Rassemblement pour la patrie et la modernité, autre formation de l'opposition qui parle d'une provocation de trop du sommet de l'État. Pierre Ndombeye, porte-parole du RPM.
Le conseil exécutif du RPM réaffirme son opposition farouche à toute monarchisation du Gabon et appelle le peuple gabonais à dire non, non et non. Le Gabon ne saurait être la propriété d'une famille et ne peut se résigner à cette nouvelle imposture. Les tenants actuels du pouvoir misent sur l'apathie et le calme apparent des Gabonais. Ajoutés à la diversion sur l'arrestation des membres de la Gève, figurant dans leur plan de départ et aujourd'hui mis brutalement à l'écart du fait de contradictions pouvoiristes. Qu'ils sachent que même les peuples en apparence les plus dociles finissent toujours par se réveiller face à un coup de force.
La nomination du fils d'Ali Bongo Ondimba au poste de coordonnateur des affaires présidentielles est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux. Mais selon le palais du bord de mer à Libreville, cette promotion de Noureddine n'est pas sans précédent dans l'histoire politique du monde. Jessie Elaekoga est le porte-parole de la présidence.
Est-ce si extraordinaire que cela pour un président de la République de s'entourer, dans le cadre de son travail, d'un membre de sa famille ? Il faut noter tout d'abord qu'au Gabon, par le passé, nous avons déjà connu une telle situation. Ensuite, si on regarde ailleurs dans le monde, on constate que cette chose est courante. Prenez par exemple les États-Unis, première puissance mondiale. Le président Donald Trump a pour principaux collaborateurs sa fille, Ivanka Trump, et Jared Kushner, tous deux occupant des fonctions officielles importantes à la Maison-Blanche. Ce n'est donc, comme vous le constaterez, pas un nouveau poste, ni un poste taillé sur mesure comme on a pu l'entendre dernièrement.
À noter par ailleurs que Roland Désiré Abamiko, le président du mouvement citoyen Gabon Nouveau Départ et ancien candidat à la présidentielle de 2016, a dans une correspondance transmise aux rédactions par son porte-parole félicité le nouveau promu du fond de sa cellule. Il est détenu depuis 2017 pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le monde a célébré hier 10 décembre la Journée mondiale des droits de l'homme. Au Cameroun, les défenseurs de l'environnement subissent toutes sortes de pressions selon une coalition d'ONG locales qui mène une campagne contre la criminalisation des défenseurs des droits fonciers. Intimidation, menaces de mort, interpellations arbitraires, abus d'autorité sont devenus leur lot quotidien. Mais sans relâche, ces femmes et ces hommes, souvent dans des zones rurales reculées, restent engagés dans leur combat. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Marie-Noël Etondembila est présidente de la section féminine de Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun. La SIDAPRACAM est une association qui dénonce les violences dont sont victimes les femmes riveraines d'un agro-industriel producteur de l'huile de palme à Souza, non loin de Douala, la capitale économique. Marie-Noël Etondembila, présidente de la SIDAPRACAM.
En réalité, nous ne défendons que nos droits. Moi, je ne vois pas que c'est une criminalité, sauf que c'est peut-être le gouvernement qui trouve que nous sommes des criminels.
Dans le village Douala, dans le centre du pays, Josepha Mbolo s'est opposé à l'exploitation de plus de 1000 hectares de terre par une entreprise chinoise. L'accord de concession ne prévoyait que 100 hectares à cette entreprise. Le militant a entrepris d'abattre plusieurs arbres pour leur barrer la route.
Pendant que je coupais le troisième arbre, le commandant de brigade est venu avec un de ses éléments. Ils sont venus nous arrêter et on s'est rendu à la gendarmerie avec le sous-préfet dans les rangs. On a été gardé à vue pendant 8 jours et après transféré à la prison principale de Nangaye-Boko où nous avons fait 4 mois.
Poursuivi plus tard pour abattage illégal, entrave à une voie publique, rébellion, Josepha Mbolo a été reconnu non coupable en 2017. Depuis 9 ans, Norbert Bouba est le coordonnateur de la cellule de veille et de protection des victimes des activités minières, celle pro de l'arrondissement de Figil, dans le nord Cameroun. 2 sociétés installées ici, depuis des lustres, exploitent le ciment et le marbre. Elles ne reversent pas 25% de leurs revenus aux populations riveraines, comme le prévoit le code minier du pays. Norbert Bouba a payé cher cette revendication.
J'ai pas mal subi des tortures, des intimidations par rapport à ce que je mène comme activité, qui est de renforcer la capacité des communautés afin qu'elles puissent défendre elles-mêmes ses droits.
Depuis 2016, une campagne baptisée « Land Right Now », c'est-à-dire les droits fonciers maintenant, attire l'attention du public contre la criminalisation des activités des défenseurs des droits fonciers. Dr Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, coordonne cette campagne.
Quand les communautés s'opposent face aux tentatives de prise de leurs terres, on s'est rendu compte qu'assez souvent, elles sont accusés à tort d'être des criminels. On a par exemple vu quelque part un leader communautaire qui se défendait être accusé d'être un coupeur de route et incarcéré, ce qu'il n'était absolument pas. On en a vu d'autres qui sont accusés d'être des personnes qui s'opposent à des décisions de l'administration.
L'un des plus célèbres défenseurs de l'environnement au Cameroun est le paysan Emmanuel Elon, qui dénonce les abus sociaux et environnementaux du groupe français Bolloré au Cameroun. Ce que le groupe Bolloré a toujours réfuté. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la journée internationale de lutte contre la corruption a été célébrée ce 9 décembre. Selon Transparency International, la corruption fait perdre à l'Afrique le quart de son PIB, devenant le continent qui souffre le plus de ce fléau. Les mécanismes anticorruption sont-ils efficaces? Les populations jouent-elles leur rôle pour combattre le mal? Comment les institutions financières internationales peuvent-elles aider les gouvernements dans la traçabilité des fonds volés? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Pour fermer notre page magazine, retour aux États-Unis. Abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, ce sont là les deux chefs d'accusation qu'ont retenus les démocrates contre le président Donald Trump dans la procédure pour sa mise en accusation. Le point avec Idriss Fall.
Jerry Nadler, le leader démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a annoncé deux chefs d'accusation.
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country.
Aujourd'hui, au nom de la Constitution et de notre pays, la Commission judiciaire de la Chambre introduit deux articles de mise en accusation contre le président des États-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs. Le premier est abus de pouvoir. Le second entrave à la bonne marche du Congrès.
Adam Schiff, chef de la commission du renseignement qui a mené plus de deux mois l'enquête sur l'affaire ukrainienne, a ajouté:
nous sommes ici aujourd'hui car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune autre alternative.
Les républicains rejettent en bloc toutes ces accusations. Doug Collins est numéro 2 de la commission judiciaire.
Nous n'avons pas de crime, nous n'avons rien que nous puissions réellement identifier et personne ne comprend vraiment ce que la majorité essaie de faire.
Depuis le début, le président Donald Trump martèle qu'il n'a rien fait de mal et dénonce une mascarade montée de toutes pièces par les démocrates.
C'est une honte, pour notre pays. C'est un canular et cela ne devrait plus jamais se reproduire.
Les deux chefs d'accusation seront adoptés en séance plénière, sans doute la semaine prochaine, à la Chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires. Une simple majorité suffira pour que Donald Trump devienne le troisième président de l'histoire américaine à être mis en accusation au Congrès. Avant lui, seuls les présidents Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 ont été officiellement mis en accusation. Le président républicain Richard Nixon avait démissionné avant le vote en 1974. Comme eux, Donald Trump devrait survivre. Pour que la destitution puisse passer, il faudra le vote des deux tiers des sénateurs. Donald Trump sera donc probablement acquitté, puisque le Sénat est contrôlé par les républicains qui font bloc autour de lui avant les élections de novembre 2020.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est ici que prend fin le monde aujourd'hui à la technique Jimmy Cook. Un grand merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité, mais aussi pour la mise en onde. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Nani Talani dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.